La main verte, le jardin avec vous Alain Baraton, le jardinier de Versailles. Bonjour Alain.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Les berbéris au programme de ce dimanche. Il existe une très grande diversité de berbéris.
Et oui. Les berbéris sont des arbustes épineux à feuilles caduques ou persistantes. Il en est recensé, pour répondre à votre question ou remarque, 500 espèces, ce qui est considérable quand on sait qu'une espèce se décline ensuite en variété et en cultivar.
Alors il est peut-être utile de préciser la différence entre espèces et variétés.
Abus de botanique ne peut pas nuire. Une espèce regroupe un ensemble de végétaux à la fois semblables par leur forme adulte et embryonnaire et pouvant se reproduire les uns aux autres. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire. Et la variété, elle, distingue les plantes d'une même espèce. Le cultivar, enfin pour tout savoir, est issu d'une hybridation, d'une sélection ou encore d'une mutation.
De tous les berbéris, quel est celui que l'on retrouve le plus souvent dans un jardin?
Alors très certainement le berbéris thunbergi, avec deux i à la fin. C'est un arbuste qui atteint le plus souvent 1,50 m, 2 m de hauteur, rarement plus. Cette plante est originaire du Japon et appréciée pour ses très jolies feuilles ovales et pourpres et ses fleurs jaunes. Vous le connaissez, on en voit souvent dans les jardins. Vraiment, il se distingue par sa couleur. Il est parfois planté en isolé, plus souvent incorporé dans une haie ou dans un massif.
Et dites-nous, pourquoi ce petit nom de berbéris?
On revient à la notion d'espèce. Le berbéris vulgaris, donc à l'origine de la famille, enfin de l'espèce, est très présent en Europe et en Afrique du Nord. Et il est connu sous l'appellation d'épine vinette. Il produit des petits fruits que les berbères, vous avez bien entendu berbères, apprécient en assaisonnement ou pour accompagner les viandes. Les berbères appelaient le fruit berbéris, un fruit donc qui a donné son nom à la plante.
Et c'est QFD, on sait tout sur les berbéris, grâce à vous. Alain Baraton, les questions des auditeurs et auditrices de France Inter pour vous. Frédéric, en septembre, un jeune bouleau était couvert de chenilles, avait perdu presque toutes ses feuilles. Nous avons donc aspergé avec du vinaigre blanc les bestioles. Est-ce que cela sera suffisant, Alain, pour que ce bouleau reverdisse au printemps?
À une époque assez lointaine, j'en conviens, je m'étais un petit peu fait l'ennemi de la bouillie bordelaise. On en mettait à toutes les sauces. Maintenant, la grande mode, c'est le vinaigre blanc. Alors, on l'utilise pour éloigner les moustiques, on l'utilise pour tuer les insectes, on l'utilise pour désherber les terrasses, on l'utilise pour tout et pour rien. Je suis pas convaincu que l'accumulation dans le sol de vinaigre blanc soit aussi écologique. À un moment donné, quand on balance du vinaigre blanc, même sur des chenilles indésirables, on va peut-être en balancer sur des chenilles qui, elles, sont désirables, sur des papillons, sur des insectes utiles, sur des coccinelles, etc. Donc, on est en automne, les feuilles vont tomber, laissons la nature accomplir son cycle, tout simplement, et pour la prolifération des chenilles, qui sont incontestablement un vrai problème, nous en reparlerons au printemps.
Alexandra qui vous pose une toute autre question. Nous avons, écrit-elle, un magnifique robinier d'une vingtaine de mètres. Il est proche des habitations, des maisons, et il abrite de nombreux insectes et oiseaux. J'hésite à le faire élaguer. Quel est votre avis? Je crois le savoir. Et surtout, rappelez-nous, Alain, c'est quoi un robinier?
Le robinier, vous le connaissez, c'est l'acacia. Et là encore, lorsqu'il y a eu des tempêtes dans les années 2000, des scientifiques se sont intéressés aux végétaux. Ils ont constaté que les arbres, quand ils étaient élagués, produisaient des feuilles plus grandes que quand ils ne l'étaient pas. C'est une manière de capter toujours la même énergie solaire. Ce qui veut dire que quand on élague un robinier en parfait état, on offre la même prise au vent que si on ne l'avait pas élagué, sauf à le tailler drastiquement. Moi, j'aime bien l'idée qu'un arbre vive librement. Là, il y a des oiseaux, il y a des insectes, c'est la vie. Oui, on peut le tailler, oui, le robinier supporte les tailles même drastiques. Ça serait peut-être quand même dommage.
Voilà, on a votre avis, Alain Baraton, sur ce robinier. Passons au cerisier, celui de Jean-Maurice. À 50 ans, il a perdu toutes ses feuilles. Durant le mois d'août, au niveau de la greffe, apparaît un champignon jaune et plat en couches superposées. Ce cerisier est-il mourant ?
Bah oui, parce que malheureusement les cerisiers ne vivent pas très très longtemps, et lorsqu'il y a surtout au niveau du point de greffe un champignon qui atteste qu'il y a donc un réseau de mycélium qui se développe dans le bois, ce n'est pas bon signe. Ce cerisier n'a aucune chance, je dis bien aucune chance, de survivre à ce champignon.
Allez, pour finir, Alain, vous avez un petit conseil de lecture pour nous.
Ça s'appelle une revue, c'est une sorte de livre, une sorte de carnet. C'est le numéro 10 de la collection Jardin. Ce sont des textes anciens ou modernes, écrits par des gens talentueux et qui ont décidé pour ce numéro 10 de parler des racines. Donc c'est très intéressant à lire. Jardin, les racines publiées, les pommes sauvages, une petite pépite là encore.
Comme les arbres, nous avons des racines. Merci de nous le rappeler,